connaissez-vous les Canuts ? Cet ouvrier lyonnais qui tissait la soie et vivait dans des conditions extrêmement misérables. Une chanson oppose ces Canuts qui allaient sans chemise au prélat qui disait la messe revêtu de chasubles d'or. Cette chanson se termine ainsi. Mais notre règne arrivera quand votre règne finira. Nous tisserons le linceul du vieux monde, car on entend déjà la révolte qui gronde. De la même façon, dans Choses vues, titre d'un recueil d'observations faites au quotidien, Victor Hugo évoque une situation sociale semblable à celle de notre parabole d'aujourd'hui. Un homme en haillons, maigre, hagard, est emmené par les gendarmes pour avoir volé un pain. Il passe près d'une femme, coquettement vêtue, riante, insouciante, qui ne le voit pas. Hugo observe la scène et termine son récit par un avertissement à prendre conscience de l'injustice et une incitation à partager, sans quoi les lendemains risquent d'être difficiles pour ceux que leur égoïsme aveugle. L'écrivain conclut en effet, du moment où cet homme, le pauvre, s'aperçoit que cette femme existe, tandis que cette femme, la riche, ne s'aperçoit pas que cet homme est là, la catastrophe est inévitable. Alors oui, des descriptions de l'inégalité insupportable entre ultra-riches et ultra-pauvres, il y en a eu souvent au cours de l'histoire, il y en a encore aujourd'hui, elles sont même beaucoup d'actualité. Il y en a dans la Bible, comme en témoignent les deux textes de ce jour, enfin surtout évidemment la parabole qui vient d'être lue. Et ces fractures sociales d'hier ou d'aujourd'hui sont souvent suivies d'un avertissement prophétique invitant à prendre conscience de ces situations avant que n'éclate la révolte. Et la parabole bien connue du riche et de Lazare se présente, enfin présente aussi une opposition presque caricaturale entre deux personnages. Bon, d'un côté, un homme qui vit dans le luxe, luxe excessif, luxe vain, il festoie tous les jours, c'est le riche. Et le texte n'utilise pas d'autres mots pour le désigner, tant son identité se résume à cette caractéristique, sa richesse. Et le deuxième personnage, c'est Lazare, l'extrême, l'exact opposé. Il incarne la misère la plus sordide, la plus hideuse, la faim, il est couché à même le sol, il n'a même pas la force de repousser les chiens qui viennent lécher ses plaies. Aucune communication entre ces deux mondes. Le riche ne voit pas la misère, le pauvre n'appelle pas non plus à l'aide. Mais il y a bien un avertissement dans la deuxième partie du texte. Avertissement qui n'est pas exprimé de manière aussi explicite que dans les exemples historiques cités précédemment, mais avertissement qu'on peut lire dans le retournement de situation qui touche l'un et l'autre personnage dans l'au-delà de la mort et non pas dans l'avenir de la vie. Un abîme sépare en effet le riche et Lazare dans la mort, avec une opposition de situation aussi radicale que dans la vie. Le pauvre a sa consolation dans la mort auprès d'Abraham. Il n'est plus seul, il est porté par les anges, il est donc élevé, lui qui était au ras de terre. Il est dans le sein d'Abraham, tandis que le riche souffre le feu de l'enfer. Alors, juste retour des choses, est-ce que ce rééquilibrage à l'avantage de Lazare et au détriment du riche nous satisfaire, peut satisfaire notre soif de justice. Je dirais pas totalement. D'abord parce que cette perspective de consolation pour les malheureux, après la mort, pourrait paraître un peu hypocrite. En effet, cette espérance d'un mieux après a souvent servi de justification à une morale de l'acceptation du présent, de la soumission, de la résignation muette à un sort injuste, comme la misère, comme si la misère était une vertu récompensée dans l'au-delà, ce que, bien entendu, elle n'est pas. Alors, là n'est sans doute pas le message que Jésus nous adresse. Je ne crois vraiment pas que Jésus veuille nous dire « endurez, vous serez consolés après la mort ». Et même si Jésus a une tendresse particulière pour les petits, pour les faibles, même s'il prédit que ces derniers seront les premiers, il ne veut pas nous dire non plus que les choses se rééquilibreront dans l'au-delà, comme si richesse et pauvreté, bonheur et malheur, péché et innocence se résumaient à une sorte de jeu de vase communicant. Et pour ce qui est du riche, je ne crois pas non plus que Jésus veuille nous faire peur par la perspective de griller en enfer si nous profitons des biens que nous avons reçus. Non, le but n'est pas de nous effrayer, même si la perspective de souffrir dans le feu, l'évocation de l'enfer, ont pu contribuer à faire peur, à chercher à faire peur, et notamment au Moyen-Âge. On voit fréquemment des représentations sur les vitraux, les fresques ou les chapiteaux d'église, on voit les représentations donc de cet enfer. Mais la peur ne porte pas à l'action, la peur au contraire pétrifie. Donc je ne crois pas, ce n'est pas dans la dynamique du Christ qui est celle d'ouvrir un chemin vers la vie, il n'est pas celle de nous faire peur. Alors, Jésus cherche surtout, bien sûr, à nous avertir. Nous avertir de quoi ? Il n'y a pas de condamnation explicite du riche dans cette parabole, mais plutôt de sa richesse. De même que la pauvreté n'est pas une vertu, ce n'est pas une faute en soi d'être riche. D'ailleurs, Abraham s'adresse au riche avec une certaine tendresse. Il lui dit « mon enfant ». De la même façon que le riche dit « mon père ». Peut-être Abraham est-il aussi un peu touché par le souci de ce riche de chercher à sauver ses frères, même si c'est un peu in extremis dans la parabole à la fin. Et puis, si on y réfléchit bien, il y a deux riches dans cette parabole. Il y a bien sûr le personnage qui ne voit pas Lazare, et puis il y a Abraham lui-même. Dans le livre de la Genèse, il est dit qu'Abraham était très riche en troupeaux, en or, en argent. Et cette richesse, cette grande richesse, elle est même présentée d'une certaine façon pour Abraham comme une bénédiction. Et donc, dans notre parabole, il n'est pas du côté du riche, il est du côté de Lazare. Il est du côté du pauvre, pardon. Alors, le péché du riche, c'est donc pas d'être riche, mais c'est peut-être de n'être que cela. D'être surtout l'esclave d'une richesse qui est devenue son idole, son dieu, qui le fascine. D'être passé à côté de sa vie en se trompant de cible. De n'avoir pas compris que, même s'il pourra bénéficier d'un bel enterrement, de belles funérailles, il n'emportera pas ses richesses dans l'au-delà. Dans ce même chapitre 16 de l'évangile de Luc, Jésus vient de dire « Vous ne pouvez servir à la fois Dieu et Mammon, hein, Mammon qui représente l'argent, Dieu et l'argent. » Or, par sa vie brillante de fête, par son luxe quotidien, de sa table, de ses vêtements, le riche a visiblement fait un choix exclusif, le choix de l'argent. Il s'est égaré, il s'est enfermé dans la richesse matérielle, il y a perdu son identité pour n'être plus qu'une caricature de lui-même. Il vit hors sol. Incapable de voir les autres autour de lui, de partager avec les plus pauvres un peu de son bien. Muré dans un orgueil qui l'amène à ne voir en eux que des subalternes, des gens qui sont là pour le servir. Et même dans l'au-delà, quand il s'adresse à Abraham, il ne s'adresse d'ailleurs qu'à Abraham, eh bien, c'est pour le solliciter et pour lui donner, par son intermédiaire, des ordres à Lazare. Il continue de se faire servir et à aucun moment n'exprime de repentir. Et pour le riche, il est trop tard. Le fossé, l'abîme qui le sépare de Lazare et d'Abraham est un véritable gouffre. Or, le riche comme Lazare sont tous deux dans le royaume des morts. Pas d'issue de ce côté. La seule issue, elle est du côté de la vie. Tant qu'on est vivant, on peut toujours réorienter sa vie, faire d'autres choix. Par exemple, le choix de l'écoute, le choix de la responsabilité. Et le verset central de cette parabole est à cet égard le rappel de Jésus à la loi, à l'obéissance à la loi. Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Moïse, bien sûr, est associé aux tables de la loi, aux commandements. Les prophètes, à tout ce qui est à sa part d'avertissement. Or, si le riche et Lazare sont morts, c'est au frère encore vivant que s'adresse cet appel, aux frères du riche, mais aussi bien sûr à nous-mêmes, à ceux qui peuvent encore, à tous ceux qui peuvent encore, à ceux dont l'abîme qui les sépare n'est pas encore infranchissable, comme l'est celui qui sépare pour toujours le riche et Lazare. Qu'ils les écoutent, c'est une interpellation, c'est une injonction pour les frères du riche, mais aussi, bien sûr, pour tout lecteur de la parole. Nous n'avons pas besoin d'intervention miraculeuse, de résurrection d'un Lazare pour nous avertir et nous inviter à modifier le cap. Nous avons l'Écriture, le premier, le deuxième testament, Moïse et les prophètes, et ce premier des commandements, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il suffit de l'écouter, et c'est ici et maintenant qu'il faut l'entendre et le mettre en pratique. Les fossés qui séparent les humains peuvent être franchis. Maintenant. Amen.
Amen.